Balado, Éric Bataillon.
Bonjour. On connaissait la filière d'anciens officiers nazis vers l'Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Il y en avait une autre, vers le Moyen-Orient cette fois. Une enquêtrice a eu accès aux archives des services secrets allemands. Elle en a tiré un documentaire édifiant, Exil nazi, la promesse de l'Orient. La Jordanie n'a pas été le théâtre d'un printemps arabe en 2011. Cela n'empêche pas les jeunes Jordaniens d'avoir leur idée sur la question. Témoignage recueilli lors d'une table ronde à Amman par Nehmat El-Matari de Monte Carlo Doualia. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchantier au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux criminels de guerre nazis ont réussi à échapper à la justice. Beaucoup ont pu gagner l'Amérique du Sud, où ils ont été accueillis à bras ouverts par des pays comme l'Argentine, le Chili, la Bolivie ou le Paraguay. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a eu une deuxième filière, à destination cette fois du Moyen-Orient. Un documentaire la met en évidence. Bonjour Géraldine Schwartz.
Bonjour.
Vous êtes la documentariste qui a réalisé cette passionnante enquête et vous êtes en ligne depuis Berlin. Berlin où vous avez eu accès à des archives inédites des services secrets allemands.
Oui, tout à fait. Les services secrets allemands, il y a 2 ans, ont adopté une nouvelle politique d'ouverture de leurs archives qui consiste en fait à laisser quelques journalistes et quelques historiens triés sur le volet accéder à des dossiers concernant l'époque Gehlen. C'est l'époque 47-63, quand un général de la Wehrmacht a créé et développé les services de renseignement allemands.
Alors l'histoire commence à Rome et ce n'est probablement pas un hasard.
Non, après la guerre et jusque tard dans les années 50, Rome est devenue une plateforme pour l'exfiltration d'Europe des nazis en fuite. On y trouve des micro-réseaux parallèles qui se sont développés. Et parmi ces réseaux, on trouve des prélats, comme un évêque autrichien, Alois Udall, qui depuis Rome profite de sa crédibilité de religieux pour obtenir des faux papiers d'identité pour les nazis en cavale. Ce trafic est aussi rendu possible parce que nombre en Italie continuent à fermer les yeux, car après tout, des anciennes structures fascistes subsistent après la guerre.
Alors tout semble tourner à cette époque autour d'un homme, Walter Rauf, qui avait lui déjà une histoire personnelle avec le Moyen-Orient.
Ce qu'il faut savoir de Walter Rauf, c'est qu'au début de la guerre, il est un haut responsable SS qui coordonne le déploiement dans l'Est de l'Europe des camions à gaz mobile pour aider les commandos SS à exterminer les Juifs. Et en novembre 1942, il va être envoyé en Tunisie où il est chef de la Gestapo, cela jusqu'à la libération de Tunis en mai 1943.
Et en 1948, Rauf est recruté par la Syrie. Alors pourquoi faire ?
À travers ses contacts noués en Tunisie, il va rencontrer un agent syrien qui va lui demander de constituer un réseau d'anciens nazis SS pour aller à Damas aider à la reconstruction de l'armée syrienne et des services de renseignement. Une 60aine d'anciens nazis, dont beaucoup de SS, vont partir pour Damas, comme Franz Steingel et Gustav Wagner, les chefs des camps d'extermination de Sobibor et de Treblinka. Et ces hommes vont arriver à Damas juste alors que la guerre vient d'être déclenchée par les pays arabes contre Israël. Selon les documents des services de renseignement allemands, certains de ces hommes auraient directement été impliqués dans la guerre contre Israël. Et Walter Rauf lui-même dira plus tard dans ses mémoires que son activité en Syrie visait directement Israël.
Il y a une convergence de vues entre les anciens officiers nazis et certains dirigeants arabes à cette époque ?
Alors pas seulement à cette époque, il faut rappeler que les sympathies entre certains dignitaires du monde arabe et le national-socialisme remontent à la guerre. Pendant la guerre, l'Allemagne est alors un allié objectif des indépendantistes arabes au Moyen-Orient, qui misent sur une victoire du Reich pour se débarrasser de leur tutelle coloniale. Ils font confiance à l'Allemagne car elle n'a jamais colonisé la région. Et Berlin, de son côté, livre des armes et soutient les Arabes contre les Britanniques, comme en Irak, en Égypte et en Palestine. La politique anti-juive de Hitler va également séduire certains leaders arabes qui s'inquiètent pendant la guerre de la perspective de la création d'un État hébreu sur une terre arabe.
Alors, un an plus tard, en 1949, la Ligue arabe recrute d'anciens nazis qui débarquent au Caire, en Égypte.
Oui, parce que à la mi-49, les pays arabes subissent une défaite cuisante contre Israël et se rendent compte qu'il faut absolument moderniser leurs armées. Et vont décider en secret au sein de la Ligue arabe au siège au Caire de recruter des experts militaires allemands.
Alors sur place, les officiers nazis, ce sont à la fois des instructeurs, des conseillers, et puis peut-être aussi des représentants commerciaux pour les entreprises allemandes. Et un homme symbolise ce statut, il s'appelle Gerhard Mertens.
Oui, Gerhard Mertens, c'est le plus jeune de la troupe, il a 30 ans. Pendant la guerre, il a dirigé des escadrons de parachutistes dans des opérations à haut risque. Et il est soupçonné au Caire par les Britanniques d'entraîner les forces égyptiennes à la guérilla pour se soulever contre la présence des Britanniques en Égypte, en particulier sur le canal de Suez, qui est le passage stratégique sur la route des Indes. À Londres, il va même l'affaire des experts allemands et de Gerhard Mertens va même remonter au plus haut niveau. Le premier ministre britannique Winston Churchill va en parler au chancelier allemand Konrad Adenauer. Et Adenauer répondra qu'il ne peut pas intervenir car il s'agit d'une entreprise privée indépendante du gouvernement.
Ce qui veut dire que l'Allemagne laisse faire. Pour quelle raison ?
En réalité, la présence des experts en Égypte arrange un peu les autorités de la jeune RFA. Car ces experts jouent aussi le rôle de représentants pour les entreprises allemandes. Or, détruite pendant la guerre, l'Allemagne est alors vouée à la reconstruction de son économie. Elle guette donc des marchés pour son industrie, et les pays arabes qui s'émancipent de la tutelle coloniale apparaissent alors comme un marché très prometteur pour les entreprises allemandes. Par ailleurs, les nazis en Allemagne n'ont pas disparu du jour au lendemain. Ils occupent après la guerre des postes dans la majorité des institutions de la jeune RFA. Beaucoup préfèrent fermer les yeux sur les agissements de leurs anciens camarades.
Il semble que l'antisionisme arabe, donc la lutte contre Israël, se soit peu à peu transformé en une sorte d'antisémitisme, la lutte contre les juifs. Est-ce que, à votre avis, l'idéologie nazie a directement ou indirectement influencé le militantisme arabe ?
L'Égypte ne s'est pas seulement intéressée aux nazis pour leur savoir-faire militaire et leur savoir-faire en matière de renseignement. Dans les années 50, les services secrets allemands relèvent la présence au Caire de plusieurs dizaines d'anciens experts de la propagande allemande, c'est-à-dire d'anciens collaborateurs de Joseph Goebbels. On trouve notamment Johann von Lerff, qui est un grand admirateur de l'islam, qui va d'ailleurs se convertir, et qui pendant la guerre a écrit beaucoup de textes où il détournait la religion musulmane pour y voir des affinités avec le national-socialisme, en particulier à l'égard des juifs. Donc bien sûr, à travers ces personnages, on peut dire que l'idéologie nationale-socialiste, dans les années 50, a continué en Égypte à laisser des traces.
Vous voulez dire que au moment de l'affaire du canal de Suez, en fait, les militaires, les anciens officiers nazis sont remplacés par des officiers de propagande, c'est ça, hein ?
Voilà, alors ça se recoupe un petit peu, c'est pas vraiment un remplacement un pour un, mais disons que à partir de 1954, c'est ce que relèvent en tout cas les services secrets allemands, on trouve une autre qualité en fait d'experts allemands qui vont vraiment servir à aider l'Égypte, le régime égyptien et donc Nasser, a développé sa propagande contre Israël.
Alors on voit bien la présence de ces anciens nazis, propagande ou militaire évidemment, aussi bien en Syrie qu'en Égypte et dans d'autres pays de la zone. Aujourd'hui, quelles traces restent-ils de ces événements ?
Alors ça reste un peu difficile à évaluer, mais un des témoins clés en fait du film que j'ai retrouvé au Caire, qui est le fils d'un représentant de la Ligue arabe à cette époque au Caire, et dont le père connaissait Gerhard Mertens, m'a dit que effectivement les forces spéciales que Gerhard Mertens a formées dans les années 50, ces formes de forces spéciales de parachutistes, existent encore et, je le cite, seraient les forces les plus efficaces en Égypte aujourd'hui.
Merci Géraldine Schwartz, documentariste. Vous êtes l'auteur de L'exil nazi, la promesse de l'Orient. Les printemps arabes de 2011 ont été diversement appréciés dans les pays qui les ont connus. Et à vrai dire, que ce soit en Égypte ou au Yémen, en Tunisie ou à Bahreïn, les changements intervenus ne sont pas toujours ceux auxquels on s'était attendu. Ils sont même parfois pires, comme en Syrie. Bonjour Nermat El-Matari.
Bonjour Eric.
Journaliste à la rédaction de Monte Carlo Doualia, qui émet en arabe sur Maghreb et Moyen-Orient. Dans votre émission quotidienne, vous avez animé un débat depuis Amman, en Jordanie, avec des jeunes sur ce thème des printemps arabes. Alors, que pensent-ils exactement ?
J'ai animé cette émission parce que les jeunes et jeunesse jordanienne représentent plus que 50% de population. Ils sont très importants, et spécialement dans le printemps arabe. Et ils pensent que qu'est-ce qui se passe dans les autres pays, elle concerne la Jordanie aussi. Pour ça, ils sont un peu plus calmes qu'avant. Tout au début, c'était un peu plus révolutionnaire, descendaient dans la rue pour demander qu'est-ce que demandent les autres jeunesse arabes. Aujourd'hui, ça a changé. Leur demande maintenant, c'est parler avec le gouvernement. Essayer, revendiquer leur demande ou chercher l'accord du gouvernement pour ces changements-là.
Sur quel thème, par exemple?
Pour plusieurs thèmes. Le plus important, c'est économiquement. Ils ne trouvent pas de travail. Le chômage très haut dans le jeunesse jordanien, hommes et femmes. Spécialement, Eric, dans les gens qui ont très bien éduqués. Parce que le Jordanie, il y a plus que 80% de population jordanienne qui sont des très hauts niveaux.
Donc même ceux qui ont un diplôme ne trouvent pas de travail.
En plus, le chômage, la corruption qui est très haut en Jordanie. La plus importante demande, c'est la corruption, l'égalité entre hommes et femmes, entre les hommes ou même d'origine jordanienne, 100% jordanien et d'origine palestinienne. Et plein de questions comme ça. Mais la plus importante, c'est le chômage et le pouvoir économique.
Est-ce que ces jeunes sont politisés? Et dans quel camp sont-ils? Est-ce que ce sont les laïcs contre
les
islamistes?
Camps, Eric, j'étais étonnée, dans tous les camps, maintenant. Ils sont communistes. Oui. J'ai amené un communiste, un gauche, un droite, un islamiste, des femmes, des hommes, des centristes, de tous les pouvoirs politiques, mais ils sont pas très bien dans les politiques. Ils sont pas encore rentrés très très bien dans les politiques, et c'est ça. Un de leurs demandes,
qu'ils puissent entrer dans les partis.
Dans les partis, qu'ils sont dans le Parlement, l'âge de Parlement, par exemple, il est 40 ans. Ils demandent qu'il soit moins que ça, 30 ans. Ils commencent par 30 ans, pour qu'il y ait le voix des jeunesses jordaniennes.
Donc finalement, ils revendiquent de pouvoir exister dans la société d'aujourd'hui,
exister.
Alors qu'à moins de 40 ans, on ne peut pas.
Et la liberté d'expression, qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ils ne soient pas dans le prison parce qu'ils sont contre le gouvernement ou qu'ils ne sont pas avec le gouvernement.
Merci Nermat El-Matari. On peut donc retrouver votre émission et notamment celle sur les jeunes jordaniens et leurs revendications sur le site de votre radio www.mc-doualia.com.
Merci.
Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Michel, la condamnation à de la prison ferme pour corruption de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert fait évidemment la une de vos journaux.
Il y avait déjà un président israélien en prison, plusieurs ministres aussi, un certain nombre de rabbins, mais... Éric, c'est bien la première fois qu'un Premier ministre est condamné à une peine de prison. 6 ans pour corruption. Et bien sûr, rien n'est encore joué. Ehud Olmert peut toujours interjeter appel devant la Haute Cour de justice, la plus haute instance juridique du pays. C'est le retour de l'État de droit, souligne un quotidien. Et ce week-end, la presse israélienne se penche plutôt sur le sort de Shula Cohen, ex-bras droit d'Olmert. Elle a accepté d'avouer les faits, de remettre à la justice des enregistrements accablants pour son ancien patron, en échange d'une peine allégée. Pour l'ensemble des commentateurs, il s'agit probablement de la plus grave affaire de corruption qu'ait connue Israël. Un chroniqueur fait remarquer dans Haaretz que le témoignage de Mme Zaken porte un coup mortel aux chances d'Ehud Olmert en appel. Un ancien ministre de la justice proche d'Olmert fait lui remarquer que la condamnation est tombée sans qu'il n'y ait vraiment de preuves.
Également dans vos journaux, Michel, l'anniversaire catastrophique pour les Palestiniens de la naissance de l'État d'Israël en 1948.
Les journaux font leur titre sur les deux jeunes Palestiniens qui ont trouvé la mort lors de manifestations pendant la journée de la Nakba, abattus par des militaires israéliens selon les Palestiniens. Côté israélien, on se contente d'affirmer qu'une enquête a été ouverte. Mais on trouve dans la presse deux informations intéressantes. D'abord, sous forme d'interview accordée par l'ancien chef du renseignement palestinien au quotidien Haaretz, Toufik El-Tiraoui affirme que l'idée de deux États vivant côte à côte est vouée à l'échec. En fin de compte, il n'y aura qu'un seul État et il sera palestinien, affirme-t-il. Et puis aussi, on apprend que l'armée israélienne utilise désormais des drones pour surveiller les activités de jeunes nationalistes israéliens en Cisjordanie.
Alexandre, les journaux arabes consacrent aussi une large place à cette commémoration par les Palestiniens de la Nakba.
Oui, le slogan, en tous les cas, devant la représentation de l'ONU à Beyrouth, c'était « Nous rêvons de retourner en Palestine, en tous les cas la Palestine d'avant 1948 ». Alors à Ramallah, selon les journaux, les sirènes ont retenti à midi pour 66 secondes pour symboliser les 66 années de la Nakba. Et puis des vieux camions ont défilé pour symboliser, selon les journaux, l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens. Et puis l'occasion pour le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, de s'en prendre au gouvernement israélien qu'il a accusé d'être plus extrémiste que jamais. Un gouvernement qui, selon lui, a fermé la porte à la solution des deux États et qui ne laisse la possibilité qu'à un État binational ou à un régime d'apartheid.
Et puis les Juifs libanais sortent de l'ombre. C'est, Alexandre, le titre d'un reportage du journal panarabe Al-Sharq Al-Awsat consacré à une communauté quasi disparue.
Oui, et une communauté qui, selon le journal, a elle aussi été affectée par la création de l'État d'Israël. Puisque du jour au lendemain, les Juifs libanais ont été regardés avec suspicion quand ils n'ont pas été accusés de trahison. Alors ils ont changé même le nom de leur communauté, qui est devenue au lieu de la communauté israélite, la communauté juive. Et puis certains se sont convertis au christianisme ou à l'islam, tandis que la majorité a émigré. Alors selon le journal, la communauté juive du Liban ne compte plus que quelques dizaines de vieillards qui se rappellent encore de ce qu'ils appellent les jours heureux, quand la communauté juive enrichissait la vie culturelle et commerciale du Liban. Une communauté dont on reparle à l'occasion de la prochaine réouverture de la synagogue Magen Abraham de Beyrouth qui avait été détruite durant la guerre civile.
Fin de mandat pour le président israélien Shimon Peres, Michel Paul, et nous avons une campagne électorale plutôt agitée.
La course à la présidence fait effectivement couler beaucoup d'encre. D'habitude, la campagne est beaucoup plus terne, mais cette fois, un candidat affirme être surveillé par des détectives privés, un autre est calomnié dans un clip vidéo, et surtout le Premier ministre Benjamin Netanyahou lui-même tente de bouleverser la donne en proposant de repousser l'élection ou tout simplement de supprimer la fonction de président, tout cela parce qu'il est à couteau tiré avec l'un des candidats, Reuven Rivlin, pourtant un de ses anciens compagnons de route.
Autre élection présidentielle, Alexandre Boutchanti, celle en Égypte. Les expatriés ont commencé à voter ce jeudi.
Oui, et les journaux qui citent le ministère des Affaires étrangères parlent de participation massive. Alors pour l'instant, il s'agit d'une participation qui est supérieure aux précédentes élections, mais il faudra attendre dimanche soir à Los Angeles pour savoir combien d'Égyptiens ont voté sur les 681 000 qui sont inscrits à l'étranger. Et puis il faudra aussi attendre les 26 et 27 mai pour savoir qui sera le prochain président, puisque c'est à ce moment-là que se dérouleront les élections en Égypte.
Et puis Alexandre, autre élection présidentielle en Syrie cette fois, elle est qualifiée de farce par la plupart des journaux arabes.
Et les journaux qui dénoncent l'incapacité de toutes les parties syriennes, arabes et internationales à trouver une solution au drame. Et un éditorialiste écrit « Pendant que les barils explosifs sont déversés sur les Syriens, le monde se contente de parole, parole, parole. »
Parole justement, Michel Paul, les militaires israéliens fondent sur Facebook.
Des dizaines de milliers de militaires avaient pris fait et cause sur Facebook pour un jeune soldat qui avait menacé deux Palestiniens avec son fusil d'assaut et qui avait eu ensuite maille à partir avec la justice militaire. Alors deux soldats se sont opposés sur des réseaux sociaux à l'évacuation de colonies de peuplement et cette fois l'armée a réagi très vite. Les deux soldats ont été évincés des rangs de leur unité.
On conclut, Michel, avec votre photo du jour.
C'est un portrait du couple Netanyahou en samouraï et geisha. Ils reviennent d'une visite au Japon. Le contrôleur de l'État, lui, vient de publier un rapport dans lequel il fait remarquer que les ministres de l'actuel gouvernement ont battu tous les records de voyages à l'étranger. Cela, bien sûr, aux frais des contribuables.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à Sophie Janin qui a mis en onde cette émission. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.